Il est 4h30 à Dakar et en temps universel, 5h30 à N'Djamena et Paris. Et le journal Afrique, c'est avec vous, Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
N'Djamena qui rompt son accord de défense avec la France.
Le Tchad, dernier pays sahélien où Paris dispose d'une base militaire. Annonce faite hier soir par le gouvernement de N'Djamena, quelques heures après la visite du ministre français des Affaires étrangères. Et c'est une question de souveraineté, assure le chef de la diplomatie tchadienne, qui préfère parler d'évolution des relations entre les deux pays plutôt que de rupture. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo, où l'Ouganda vient d'extrader une vingtaine de jeunes soupçonnés d'avoir été recrutés pour le compte des rebelles du M23. La Namibie, qui prolonge jusqu'à demain des opérations de vote qui ont débuté et qui auraient dû se terminer ce mercredi. Le Sénégal, le président français reconnaît dans une lettre adressée à son homologue à Dakar que les troupes coloniales ont bien commis un massacre à Tiaroy en 1944. Jusqu'alors, la France ne parlait que de répression sanglante envers des tirailleurs qui réclamaient le paiement de leurs soldes. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Victor Missistrano. On parlera football, notamment la Coupe d'Afrique des Nations féminine et la Ligue Europa. L'annonce a été faite donc quelques heures après le départ du ministre français des Affaires étrangères de N'Djamena. Le Tchad fait savoir qu'il met fin à l'accord de défense qui lie le pays à la France. Le Tchad qui en fait une question de souveraineté et qui parle d'évolution plutôt que de rupture. Magali Lagrange.
Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, peut-on lire dans le communiqué. Un tournant qualifié d'historique, 66 ans après la proclamation de la République, le Tchad met donc fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec Paris. Ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs, tempère le ministre tchadien des Affaires étrangères. Le Tchad veut évoluer, mais la France reste un partenaire essentiel, poursuit Abderrahmane Koulamallah. Le communiqué précise d'ailleurs que N'Djamena reste ouverte au dialogue pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, y compris le délai de préavis, seront respectées, affirme le Tchad, sans plus de précision pour le moment sur les implications de la fin de cet accord. Environ un millier de soldats français sont actuellement stationnés dans le pays. Au début du mois, l'envoyé personnel du président français pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel, affirmait sur notre antenne que ni le Tchad, ni la Côte d'Ivoire, ni le Gabon ne souhaitaient le départ des Français.
Magali Lagrange. Quant à Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, il poursuit sa tournée sur le continent africain. Il a pris hier donc la direction d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Au moins 15 morts et plus de 100 disparus en Ouganda, dans l'est du pays, conséquence de glissements de terrain suite à des pluies diluviennes. La police ougandaise indique que les opérations de recherche et de secours sont entravées par des routes impraticables. La porte-parole de la Croix-Rouge évoque de son côté 45 maisons complètement ensevelies dans plusieurs villages. L'Ouganda, d'où 18 jeunes arrêtés pour séjour irrégulier, viennent d'être extradés vers la République démocratique du Congo, en RDC. Ils ont été présentés aux autorités militaires de Bunia, en Ituri, accusés d'avoir été recrutés pour le compte du groupe rebelle M23, qui occupe une partie de la province voisine du Nord Kivu. Explication à Kinshasa avec Patient Ligodi.
Ces 18 jeunes, pour la plupart des déplacés du territoire des Djougou, auraient été recrutés dans un camp de déplacés au nord de Bunia par un individu identifié comme un membre influent du groupe armé local Zaïre. Selon les autorités congolaises, ils étaient destinés à renforcer les rangs du M23 après avoir traversé la frontière ougandaise. Leur destination finale, les collines des Tchanzu, dans le Nord Kivu, un des bastions réputés du M23. Parmi eux, on compte 3 mineurs, certains encore en âge d'aller à l'école. Des sources militaires indiquent qu'ils ont été enrôlés parfois pour moins de $10 ou contre une promesse de travail. Arrêtés par les services ougandais à la frontière, ces jeunes ont été extradés vers la RDC via Arou avant d'être transférés à Bunia. Les sources du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précisent que ces personnes n'ont pas demandé l'asile en Ouganda et ne sont donc pas considérées comme des réfugiés. Présentés devant les autorités militaires à Bunia, ces jeunes ont été remis à la justice militaire pour enquête. Pour l'instant, le M23 n'a pas réagi à ces accusations. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
à la République démocratique du Congo où à la fin de l'année dernière, les élections prévues le 20 décembre se sont prolongées localement pendant près d'une semaine. En Namibie, en ce moment, même cause, mêmes effets, de nombreux dysfonctionnements dans les bureaux de vote et une forte participation. Finalement, les scrutins sont prolongés jusqu'à samedi. Décision de la commission électorale, approuvée par le président sortant, pour ces élections présidentielles et législatives qui auraient dû avoir lieu uniquement mercredi. Des jours de vote supplémentaires, donc encore aujourd'hui et demain, nécessaires au vu du nombre de personnes qui n'ont pas pu voter mercredi, même hier, Valentin Hugues.
Certains électeurs ont été privés de leur droit de vote, annonce la commission, parce que cette élection, qualifiée de la plus disputée de l'histoire du pays, avec le parti historique SWAPO sur la sellette, a surtout viré au fil d'attente interminable, manque de bulletins dans certains bureaux, matériel informatique qui dysfonctionne, résultat des citoyens qui font le pied de grue toute la journée devant les bureaux de vote, qui parfois doivent patienter plus de 12 heures dans une chaleur étouffante, ou qui n'ont tout simplement pas réussi à accéder aux urnes. Les partis politiques en lice se sont rapidement indigné d'une telle situation. Réponse de la commission, prolonger le scrutin. Mais pour certains partis d'opposition, ce vote devrait tout simplement être annulé. Le processus électoral devrait recommencer à zéro. Continuant de croire que le vote est délibérément perturbé par la commission électorale pour permettre à la SWAPO de rester au pouvoir. Finalement, la commission a préféré l'option d'étendre la période du vote encore 2 jours dans une trentaine de bureaux, notamment en livrant de nouvelles piles de bulletins pour permettre à l'ensemble des 1,4 millions d'inscrits d'accomplir leur acte démocratique. Reste que l'opposition pourrait ne pas reconnaître l'issue du scrutin. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Une opposition réduite à la portion congrue en Tanzanie, résultat des élections locales qui se sont tenues cette semaine. D'après le ministre en charge du scrutin, le parti au pouvoir depuis l'indépendance a remporté pas moins de 98% des sièges. À Madagascar, c'est dans un peu moins de 2 semaines que l'on votera là aussi pour des élections municipales prévues le 11 décembre. À Antananarivo, la plus grande mission d'observation électorale de la société civile déplore le fait que les candidats de la majorité présidentielle, coalition Irma, couleur orange, ces candidats donc font usage de leur proximité avec le pouvoir et en font un argument de campagne. Correspondance de Pauline Letroquier.
En 10 jours, la majorité des communes de l'île se sont drapées d'orange, la couleur de la coalition présidentielle. Au-delà d'occuper davantage l'espace public que leurs adversaires, les candidats du pouvoir n'hésitent pas à utiliser un argument différenciant pour convaincre le soutien apporté par l'État, comme l'explique Stella Razanamaef, porte-parole de SAFID, la plus grande mission d'observation électorale du pays.
Les candidats qui sont proches du pouvoir profitent de cette opportunité et ils osent même dire candidat panzakane, c'est-à-dire candidat de l'État. C'est un mot qui ne devrait pas se dire, mais pour faire en campagne, c'est une sorte d'intimidation que si vous n'allez pas élire le candidat d'État, nous n'allons jamais voir le développement de notre commune.
Un discours commun au candidat Irmar, généralisé à l'échelle du pays et véhiculé en dépit des textes qui imposent le principe de neutralité de l'administration pendant la campagne. D'autant que l'argument compte agitant la crainte chez les plus précaires d'être soudainement privé d'allocations sociales, détaille encore Stella Razanamaef.
Il utilise cet argument puisque ça marche avec la population sans éducation électorale.
6 mois plus tôt, en pleine campagne des élections législatives, le chef de l'État, Andrzej Duda, avait multiplié les inaugurations et discours de soutien non dissimulés aux candidats du pouvoir. Saisi, la Haute Cour constitutionnelle avait considéré que le président exerçait seulement ses fonctions. Pauline Troquet, Antananarivo, RFI.
À Antananarivo, il est 7h38, même heure, à Nairobi, au Kenya, où les églises prennent leur distance avec le président William Ruto. Dans ce pays majoritairement chrétien, hier, l'Alliance des églises évangéliques du Kenya a demandé une convention nationale, alors que depuis 2 semaines, plusieurs églises ont fait part de leur défiance vis-à-vis du chef de l'État à Nairobi, Gaël Lalex.
Il est temps que les Kenyans se réunissent pour défendre notre nation contre les nombreuses attaques qu'elle subit, a déclaré hier l'évêque Philippe Kitoto. Il dresse une liste extensive de reproches faits à la politique de William Ruto. Fiscalité accablante, réforme de la santé et de l'éducation inefficace, corruption, violence policière, atteinte à la cohésion sociale. La première à s'être lancée contre le président kényan est la puissante conférence des évêques catholiques du Kenya. Le 14 novembre, elle accuse William Ruto de culture du mensonge. Elle s'inquiète des velléités du président de se maintenir au pouvoir. Une réforme constitutionnelle est en effet dans les cartons pour passer le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Depuis lors, l'église anglicane du Kenya, la presbytérienne, les Akorino, une congrégation de 500 000 fidèles du centre du pays, et la coalition kenyane des alliances d'églises et ministères, une organisation œcuménique, lui ont emboîté le pas. Dans son discours sur l'état de la nation la semaine passée, William Ruto a promis d'écouter les chefs religieux du pays. Ses critiques le fragilisent. Au Kenya, plus de 85% de la population est chrétienne. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également le Liberia, où l'on a appris hier la mort de Prince Johnson, ex-chef de guerre, réputé pour sa cruauté, acteur majeur de la guerre civile qui a ravagé le pays entre 1989 et 2003. Depuis, il s'était reconverti dans la politique et dernièrement, il était sénateur et il est mort à l'hôpital à l'âge de 72 ans. La France et le Nigeria promettent de développer leur coopération économique. Le président Bola Tinubu est à Paris en ce moment et son homologue français Emmanuel Macron a dit hier ciblé en priorité des investissements dans les domaines de l'énergie, des métaux rares et des minéraux critiques. Emmanuel Macron, qui reconnaît par ailleurs que la France a commis un massacre à Tiaroy le 1er décembre 1944. C'est ce qu'a assuré hier sur France Télévisions le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, à quelques jours donc des 80 ans de ces événements. Et alors que de nombreuses zones d'ombre persistent, notamment sur le nombre de victimes, au moins plusieurs dizaines, sans doute plusieurs centaines de tirailleurs africains qui demandaient le paiement de leurs soldes à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, incertitude aussi sur l'endroit où ils ont été enterrés. Emmanuel Macron, qui invoque dans sa lettre les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays et le devoir réciproque de vérité et de justice. De son côté, en tout cas hier, Bassirou Diomaye Faye a fait part de sa satisfaction.
Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toutes